Alors, il y a deux ans, on a vu ensemble l'épître, la première épître aux Corinthiens. Si vous vous rappelez, on a traversé toute cette épître. L'année dernière, on a commencé la deuxième épître aux Corinthiens et on ne l'a pas achevée. On est arrivé au chapitre 7 et on a arrêté. Et à ce moment-là, j'ai fait d'autres messages sur différents sujets. Et donc, j'aimerais quand même qu'on achève cette épître aux Corinthiens, cette deuxième épître. Alors, on s'était arrêté au chapitre 7 et on va lire eh bien, chapitre 8 et chapitre 9. 2 Corinthiens, chapitre 8 et chapitre 9. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. À travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit en abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par l'exemple du zèle des autres la sincérité de votre amour. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement, selon vos moyens, réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop. Celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite le même empressement pour vous. Car il a accueilli notre demande et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Nous envoyons avec lui le frère dont la louange en ce qui concerne l'évangile est répandue dans toutes les églises. De plus, il a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance que nous accomplissons à la gloire du Seigneur lui-même et en témoignage de notre bonne volonté. Nous agissons ainsi afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte dont nous avons la charge. Car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Nous envoyons avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions, et qui en montre encore plus, encore cette fois, à cause de cette grande confiance en vous. Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous, et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. Donnez-leur donc à la face des églises la preuve de votre amour et montrez-leur que nous avons sujet de nous glorifier de vous. Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là et que vous soyez prêts, comme je l'ai dit. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tourne à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toute chose de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichi à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. Alors dans ces deux chapitres, Paul va traiter de la question de la libéralité ou de la générosité. Alors, je pose une question. Est-ce qu'un chrétien devrait être généreux? Répondez pour vous-même. Est-ce que ça vous semble logique qu'il soit généreux? Une autre question, c'est est-ce que moi, je suis généreux? Des fois, on se regarde soi-même et il faut se poser la question. Ou est-ce que nous sommes généreux d'une manière générale? Une dernière question que l'on peut se poser, c'est Dieu est-il généreux? Est-ce que Dieu est généreux? À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le conflit était terminé. Londres avait été bombardée, il y avait des ruines un peu partout. Et il y a une Jeep américaine qui était en train de passer dans une rue. Et donc un soldat sur la Jeep. Et il voit un petit garçon au loin, devant une vitrine, puis en s'approchant, il regarde et il voit ce petit garçon qui est devant une pâtisserie. Et il est en train de saliver parce qu'il voit à l'intérieur le pâtissier qui est en train d'enfourner des donuts. Et donc, il est là, orphelin, probablement à la rue. Et donc, le militaire passe et puis il s'arrête. Et poussé par son cœur, il descend. Et il va voir ce petit garçon. Et il dit, mon petit garçon, est-ce que tu en voudrais? Et il dit, oh oui. Alors il rentre, il achète une douzaine de donuts, il ressort et lui donne. Et le petit garçon, il reste comme ça. Et puis alors que le soldat s'en va, il sent qu'il est tiré, il se retourne. Et le petit garçon lui dit, monsieur, est-ce que vous êtes Dieu? Est-ce que vous êtes Dieu? Et lorsqu'on est généreux, eh bien on ressemble nécessairement à Dieu. C'est sûr, on ressemble à Dieu. Dieu est-il généreux? Ah oui, assurément, Dieu est généreux. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré lui-même pour nous tous, il est généreux. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, il l'a donné pour nous, afin qu'on ne périsse pas, mais qu'on ait la vie éternelle. Dieu a été, et Dieu est toujours, il est très généreux avec nous. Et celui qui ne le croit pas, qui ne l'a pas goûté, c'est simplement qu'il ne l'a pas connu, ou il ne l'a pas encore connu. Alors, eh bien, il doute peut-être de sa générosité. Mais Dieu est riche en bonté pour tous ceux qui croient en lui. Et ceux qui croient, ils le goûtent, assurément. Alors, eh bien, dans ces deux chapitres, on va voir quatre choses concernant la générosité. On va voir d'abord que la générosité, elle est une source d'exemple, de motivation. La générosité, elle est une preuve d'amour. La générosité, elle ne peut être que volontaire. Elle est volontaire. Et la générosité, elle enrichit la personne qui la pratique. Elle produit des fruits spirituels. Alors, eh bien, dans notre texte, Paul va faire connaître, c'est ce qu'il dit au verset 1, il va faire connaître la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Comment la grâce de Dieu s'est manifestée dans ces églises? Par la générosité que Dieu a mise sur le cœur des Macédoniens. Ça, c'était une manifestation de sa grâce. Regardez, on va lire, relire 2 Corinthiens 8, versets 2 à 4. À travers la grande épreuve de leurs afflictions, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Pour remettre un peu dans le contexte, l'église de Jérusalem, vous vous souvenez, si vous lisez le début des Actes, ils se sont convertis par milliers. Beaucoup d'entre eux étaient pauvres, hein, ils n'avaient rien, et ils sont venus à Jésus-Christ, ils ont cru. Après, il y a eu une certaine persécution, et certains ont commencé à fuir Jérusalem. C'est aussi comme ça que l'évangile s'est répandu dans le bassin méditerranéen. Mais il y avait toujours une église à Jérusalem, et une église qui était pauvre. Et leur pauvreté a commencé à se répandre, et on savait que c'était difficile pour l'église de Jérusalem. Alors du coup, un peu de partout, il y a quelque chose qui est monté, la grâce de Dieu s'est manifestée, il y a eu une volonté d'aider l'église de Jérusalem. Et les Macédoniens ont répondu à l'appel, tout de suite. Nous voulons aider les frères de Jérusalem. Et c'était la grâce de Dieu. C'était vraiment Dieu qui les poussait. Dieu était à l'œuvre et il leur donnait cette générosité. Et là où c'était très touchant, c'était que la Macédoine, c'était le nord de la Grèce, et c'était une région qui était pauvre. D'abord parce qu'elle avait subi des guerres, mais aussi parce qu'elle était toujours taxée par l'Empire romain qui était là. Et donc, il y avait des pressions, il y avait des afflictions. Il parle de la grande épreuve de leurs afflictions. Et là, il y a un paradoxe. Il dit leur joie débordante. Première chose paradoxale. Ils étaient dans de grandes épreuves, dans des afflictions. Leur joie était débordante. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ était au centre de leur cœur, de leur vie. Ils étaient attachés à lui. Alors, malgré les afflictions, ils étaient dans la joie. Ils avaient de la joie dans le cœur. Deuxième paradoxe, leur pauvreté profonde. Ils étaient loin d'être riches, dans l'opulence ou l'abondance. Et pourtant, ils voulaient donner. Ils étaient généreux. Paul dit, c'est quand même une phrase incroyable, avec abondance de riches libéralités de leur part. Et Paul l'atteste, ils ont donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Au-delà de leurs moyens. Et on imagine que Paul a dit, non, arrêtez là. C'est pas raisonnable ce que vous faites. Je vois bien dans quelle situation vous êtes. Vous donnez trop. Et ils ont dit, on veut donner. Bon, d'accord. Ils ont accepté. Enfin, Paul a accepté. Comment est-ce possible d'être si généreux ? Alors que mon cœur, et je me juge moi-même, il faut se regarder soi-même, on peut être naturellement plutôt égoïste, serré, étroit, en pensant surtout à nous. Regardez, il dit que c'est la manifestation de la grâce de Dieu. Donc la grâce divine a agi dans leur cœur et ça les a poussés à vouloir faire un sacrifice, à vouloir donner de tout leur cœur. Mais pour que le cœur arrive à cette générosité, qu'est-ce qui s'est passé avant ? C'est pas que ils avaient simplement de la bonne volonté et puis on va donner. Regardez verset 5. Il dit « Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. » Donc on voit, la grâce, elle agit dans un cœur qui se donne en fait. On commence par se donner au Seigneur, on vit pour Jésus en fait. On a envie de vivre pour Jésus, on se consacre à Jésus, c'est ça. Et comme on s'offre à Jésus, alors la grâce se manifeste dans notre vie. Et puis après, on devient généreux. Non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Ils se donnent à Dieu, ils se donnent à Paul, ils se donnent aux frères, et ils deviennent généreux. Alors pourquoi Paul dit ça aux Corinthiens ? Il commence une introduction de son sujet en leur expliquant ce qui s'est passé dans les églises de la Macédoine. Pourquoi ? Parce que c'était un exemple justement pour ses frères de Corinthe. Il faut savoir que Corinthe avait aussi entendu parler de Jérusalem, et quand ils en ont entendu parler, ils se sont dit « Mais nous aussi on veut donner. Oui, on veut donner, on veut faire quelque chose, faire un don. » Mais en fait, ils avaient commencé, mais ça n'avait pas abouti. Ils n'avaient pas encore réellement fait. C'était l'année dernière. Verset 6, il dit « Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance, comme il l'avait commencé. » Donc, Tite avait commencé à peut-être rassembler les dons, et puis c'était resté là, et puis le temps avait passé, et finalement, eh bien, voilà, le don n'avait pas été fait. Alors, eh bien, Paul prend cette générosité des Macédoniens et il la montre en exemple à l'église de Corinthe. Et c'est vrai que ça touche quand on voit la générosité de quelqu'un. Enfin, moi, personnellement, ça me touche et je me dis, oui, c'est vrai, tiens, il faut faire quelque chose, là, il faut intervenir. Il y a une personne qui a fait un don pour notre église ici de 2900 euros. Il y a une autre personne qui a fait un don de 1000 euros. Il y a une autre sœur, qui, je pense pas, roule sur l'or, a fait un don de 200 euros. À chaque fois, c'était en connaissance de notre besoin d'un futur local. Je trouve ça très touchant. Quand je connais les personnes et je vois, je me dis, mais c'est incroyable, la générosité. La générosité, c'est quelque chose de touchant et c'est un exemple pour nous. Regardez versets 7 et 8. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver, par l'exemple du zèle des autres, la sincérité de votre amour. Et là, on voit que la générosité, c'est une preuve d'amour. C'est un révélateur de la sincérité de l'amour, du cœur. Et Paul va commencer par mettre en avant les qualités des frères de Corinthe. C'est touchant, hein, puisqu'il dit, voilà, « Je sais que vous excellez en foi, c'est en confiance. Je vois bien que vous faites confiance au Seigneur. Vous excellez en foi, vous excellez en parole, vous excellez eh bien, dans la connaissance. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut, toute la parole dans votre cœur. Vous excellez en connaissance. Peut-être que c'était la mise en pratique de la parole. Vous excellez en zèle, vous excellez même en amour vis-à-vis de Paul, de ses compagnons. Et Paul dit, ben, faites aussi d'exceller, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Et donc, il fallait qu'il brille, qu'il rayonne aussi par la générosité. Pourquoi ? Parce que la générosité est un révélateur aussi de notre amour. Bien sûr, ça ne veut pas dire que l'amour passe par le portefeuille. Il ne faut pas croire ça, hein ? Ou que celui qui donne beaucoup, c'est qu'il aime beaucoup. Non, ce n'est pas du tout ça. Mais la générosité peut être une preuve que nous aimons vraiment ceux à qui ou ceux pourquoi nous donnons. Regardez, je vais vous lire un passage de Jacques. Il dit, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Et on voit, Jacques nous dit que aimer, ça passe par des œuvres qui sont concrètes, des œuvres physiques, qui sont aussi matérielles. On va accepter de perdre, on va accepter de donner, de se priver de quelque chose pour que l'autre reçoive mieux, pour que ce soit mieux pour lui. Est-ce que ce n'est pas là l'exemple de Jésus ? Regardez verset 9. Il dit, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » Quelle parole magnifique ! C'est un verset magnifique. Jésus était dans le ciel. Il n'avait besoin de rien. Il était servi par des milliards d'anges. Sa parole créatrice pouvait tout faire. Il était au-dessus de tous, roi des cieux, roi de la terre, et toutes les créatures angéliques venaient lui rendre la gloire, l'honneur. Et même si c'était tragique, le jugement des pécheurs, eh bien, était aussi une manifestation pour sa gloire, parce qu'il exerçait la justice. Mais pourtant, Jésus a accepté de laisser son égalité avec le Père, c'est ce que dit Philippiens 2, pour descendre dans un corps humain, dans un corps fragile, faible, un corps qui a froid, un corps qui a faim, un corps qui peut avoir chaud, qui peut être fatigué. Il a perdu son éclat extérieur. Les milliards d'anges n'étaient plus là pour le servir. Et au lieu de la gloire, c'était l'ignominie, c'était les crachats, c'était le rejet, c'était l'abandon, la méchanceté des hommes. Et pour finir, il subit la mort sur la croix, une mort infâme, une mort dégradante, réservée aux coupables. Et quel contraste! Pour nous, il était riche et il s'est fait pauvre. Il est descendu. Et pour quelle raison? Pour une seule raison, en fait, c'est pour nous enrichir. Il n'était pas obligé, mais il voulait nous enrichir. C'était nous qui étions pauvres et lui qui était riche. Mais il n'a pas voulu nous laisser dans notre pauvreté, alors eh bien, il s'est dépouillé lui-même de sa richesse, il est descendu dans la pauvreté pour que nous, eh bien, le ciel nous soit ouvert et que la richesse nous soit ouverte. Dans Jean 15, il dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc celui qui aime, il donne, il se donne lui-même à Dieu, et en se donnant lui-même à Dieu, eh bien, il en devient généreux. C'est naturel. Ça, c'est une preuve d'amour. Une preuve d'amour. D'ailleurs, il le dit un petit peu plus loin. Il dit « Donnez-leur donc à la face des églises la preuve de votre amour. » Donnez-leur la preuve. Dieu a prouvé qu'il nous aimait en se donnant lui-même. Il aurait pu créer une créature, je ne sais pas, un être, comme un ange, qui vient subir la mort sur la croix, si ça avait été possible. Mais c'était pas comme lui-même qui descend et qui accepte de mourir pour nous. Et il fallait ça, de toute façon. Il fallait que Jésus-Christ descende et meure pour nous, c'était la seule solution. Mais il s'est donné lui-même. Il a offert son Fils. Hein. Il est dit, le Fils de Dieu m'a aimé, il s'est livré lui-même pour moi. Dieu m'aime. Ça veut dire Dieu m'aime, c'est sûr. Il n'y a personne qui m'aime comme lui. Personne qui s'est donné comme lui. Alors, est-ce que les Corinthiens aimaient les frères de Jérusalem? Ils avaient dit qu'ils donneraient. Est-ce qu'ils avaient toujours l'intention de le faire? La générosité est un révélateur de la sincérité de notre amour. Maintenant, on a lu que Paul dit aussi « Je n'en fais pas un ordre ». Et verset 10, il dit « C'est un avis. C'est un avis que je donne là-dessus. Car cela vous convient, à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. » Et c'est certain que si les Corinthiens n'avaient pas dit « Nous voulons donner aux frères de Jérusalem », Paul n'aurait rien dit, il n'en aurait pas parlé. Mais c'était parce qu'ils avaient dit « Nous voulons donner aux frères de Jérusalem ». Alors, eh bien, il leur rappelle. Il leur dit « Souvenez-vous, vous avez dit que… » Et il n'était pas question du tout de les obliger à donner, mais simplement, ben, je vous rappelle ce que vous avez dit. Alors, il dit, verset 11, « Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement, selon vos moyens, réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. » Et puis un peu plus loin, il dit, mais dans la circonstance présente, eh bien que votre superflu puisse enrichir ses frères, qui est une règle d'égalité, et que vous puissiez faire du bien à ses frères. Mais il dit, je n'en fais pas un ordre. Maintenant, est-ce que le Nouveau Testament nous enseigne sur la libéralité? Est-ce que Dieu l'attend de nous? Ah ben oui. Regardez 1 Timothée 6, 17 à 19. Il dit « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Un autre passage, Hébreux 13, 15 à 16. Il dit, « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Alors oui, Dieu nous enseigne à être libéral, à être généreux. Il nous enseigne à donner. Mais une troisième chose qu'on peut voir, c'est que ça doit être volontaire. Il nous dit, il faut le faire, mais il dit, il faut que ce soit volontaire. La générosité doit être volontaire. Au sujet des Macédoniens, Paul dit, ils ont, je l'atteste, donné volontairement. Volontairement. Et ça, c'est un principe général qui concerne la libéralité. Dieu ne veut pas que nous nous sentions forcés à donner. Il ne le veut pas. La générosité, elle doit toujours être volontaire. Regardez ce verset, 2 Corinthiens 9, verset 7. Il dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et ça, c'est un principe qui fait loi. Un principe qui fait loi. Tout don, toute offrande, toute aide que l'on apporte à une cause pour la mission, par exemple, ou bien pour l'œuvre de Dieu ou pour son Église, tout doit être fait selon une résolution du cœur. C'est une résolution personnelle. C'est nous. On décide. Décision personnelle. Sans contrainte ni pression de quiconque. Et il dit sans tristesse. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Qui donne avec joie. Et Dieu regarde au cœur. Il regarde la manière avec laquelle on donne. Et c'est le cœur qui compte. Hein. Est-ce que si nous donnons, c'est notre cœur qui donne, ou bien c'est notre cerveau qui donne, ou bien c'est la tradition qui donne, ou c'est l'habitude qui donne? Est-ce que c'est le cœur? C'est le cœur qui est important. Dieu aime celui qui donne avec joie. Et vous savez, parfois, vous êtes dans une église et c'est le moment de l'offrande. La corbeille va passer ou le petit panier va passer. Et certains peuvent se dire, bon, il faut que je donne parce que sinon on va me regarder, on va me prendre pour un avare ou un radin. Ça passe. Ah, okay. Est-ce que j'ai quelque chose? Il faut que je donne quelque chose. Eh bien, vous savez, si on a cette pensée-là, il ne faut pas donner. Il ne faut pas donner. Si ça passe, on n'est pas obligé, en fait. Hein. C'est volontaire. Donc, nous ne sommes pas obligés. On n'est pas obligé de donner. Et ce n'est surtout pas la peur du « quand dira-t-on »« Qu'est-ce que va penser mon voisin ou l'autre ou la personne qui passe ?» C'est surtout pas ça qui doit nous pousser à donner quelque chose. Si on ne donne pas, on ne donne pas. Et ça nous regarde. Ça nous regarde. C'est entre nous et Dieu. Dieu aime celui qui donne avec joie. Et c'est ça l'important. Donner simplement si on a envie de donner. Et si on n'a pas envie, ben c'est pas grave. La générosité ne peut être que joyeuse, avec le cœur. C'est ce qui compte. C'est ça vraiment qui compte. Peut-être aussi on devrait se regarder un peu quand on donne et se dire, mais est-ce que je suis en train de le donner avec joie? Se poser la question. Parce que quand on y pense et qu'on a vraiment envie de donner, c'est plus juste une habitude. On le fait joyeusement. On le fait par reconnaissance. Donc les dons et libéralité doivent être faits volontairement et non d'une manière forcée. Mais Dieu ne fait pas que dire cela. Il dit cela, hein, il faut le faire avec son cœur. Mais il ajoute auparavant, regardez, verset 6, il dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Et Dieu ne donne pas d'ordre, il n'y a pas une question d'ordre, hein, mais il dit que sur la base de dons volontaires qui viennent du cœur, eh bien, il y aura un retour pour ceux qui donnent. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est lui. Il le dit. C'est comme un agriculteur qui sème 5 hectares. Eh bien, il va récolter en proportion de ce qu'il a semé, 5 hectares. Si vous semez un potager de 10 mètres carrés, ben, vous aurez 10 mètres carrés. En fait, c'est ce qu'il dit, hein. Celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème beaucoup, moissonne beaucoup. C'est mathématique, en fait. Mathématique. Pourquoi Dieu nous dit ça? Il nous dit cela parce que c'est quelque chose de spirituel. Dans le fait d'être généreux, il y a quelque chose de spirituel. Ce n'est pas juste du matériel, c'est spirituel. Dieu le voit. Dieu voit le fruit que ça porte dans nos cœurs. Et Dieu finit par nous le rendre d'une manière ou d'une autre. Il le fait. C'est jamais une perte d'être généreux avec le Seigneur. Alors, je ne sais pas combien vous avez de vie chrétienne, mais plus vous avez de vie chrétienne avec le Seigneur, plus on a d'années, plus on l'a fait, plus on le sait. C'est jamais une perte d'être généreux avec le Seigneur. Ça, c'est ce qu'enseignent les Écritures. Regardez ce qu'il dit, versets 8 à 10. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Et là, on a ici le principe de la générosité et le bienfait qui en résulte, qui sont expliqués. Celui qui donne peu, moissonne peu. Celui qui donne beaucoup, moissonne beaucoup. Et Dieu fait en sorte que celui qui donne soit béni matériellement. Alors ça, c'est clairement dit ici. Malheureusement, quand on entend cette phrase, « soit béni matériellement », on comprend parfois ce qu'on veut bien comprendre, ce qu'on a envie de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire être béni matériellement? Ça ne veut pas dire qu'on puisse finalement recevoir de manière à pouvoir s'acheter tout ce qu'on a envie. Voilà, on va être mais alors dans une abondance, hein, royale, et voilà, on peut envisager une belle voiture, on peut envisager une maison, une piscine, on peut envisager plein de choses parce qu'on va recevoir, c'est sûr, on va recevoir là. Non, c'est pas ça. Ça ne veut pas dire être riche parce que Dieu est riche. Certains se disent, Dieu est riche, ses enfants doivent être riches. Non. C'est ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. C'est un faux évangile. C'est un mensonge. Un faux évangile. Dans cet évangile, on dit, un chrétien ne peut pas être pauvre. Il ne doit pas être pauvre. Il faut qu'il soit riche parce que Dieu est riche. Ça, c'est un mensonge. Mais alors que signifie être béni matériellement? Dieu le dit, verset 8, il dit « Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. » À tous vos besoins. Ça, c'est une première chose. Dieu ne promet pas de satisfaire nos caprices, nos convoitises. Non, nos besoins. Et on devrait toujours se demander avant de dire ou avant d'acheter quelque chose, est-ce que c'est un besoin ou c'est un caprice? Et j'en ai, mais alors vraiment pas besoin. Mais bon, petit plus qui m'intéresse. On devrait se poser la question. Quand on est là en train, on est sur le point de dépenser. Est-ce que c'est un besoin? Est-ce que c'est vraiment utile? C'est Kimberly n'est pas là, j'en profite. Moi ça me touche, hein, pour un mari ça touche, hein. Elle va faire les courses, elle est sur le point d'acheter, et puis elle réfléchit, et puis elle dit « Non, finalement, je ne l'achète pas parce que… » Elle argumente pourquoi. Voilà. C'était pas un besoin. C'était pas un besoin. Dieu nous dit « Donne, sois généreux, et tu ne manqueras de rien de ce qui est nécessaire. » De ce qui est nécessaire. Et ça paraît complètement illogique. Alors, vis-à-vis du monde, hein, quand le monde entend ça, il dit mais ça va pas la tête. C'est illogique. Si vous avez une somme d'argent et que vous avez des charges tous les mois, logiquement, vous vous dites, si je garde 100%, eh ben, j'ai 100% pour payer mes charges, etc. Mais ce n'est pas la manière de voir de Dieu. Dieu ne voit pas les choses comme ça. Dieu nous prend à contre-pied, en fait. Hein. Il dit, il peut nous combler de toutes ses grâces si nous sommes généreux. Et là, eh ben, il y a un pas de foi. C'est vraiment un pas de foi. Le chrétien peut entrer dans la générosité en comptant sur Dieu pour la fin de ses mois. Ça ne veut pas dire qu'il faille faire des choses insensées. Hein. Quand j'étais jeune chrétien, je devais gagner 800 euros parce que je faisais un service militaire ou quelque chose comme ça. Ou je ne sais plus. Non, c'était 800 francs à l'époque. Ça remonte quand même. C'était 800 francs. Et un jour, j'ai dû donner 600 francs. Là, il ne me restait pas grand-chose pour vivre. Hein. Et là, j'ai pris une leçon. Parce que je me suis dit, bon, ok, Dieu le dit, mais ça ne veut pas dire qu'il veut nous donner quand même. Hein. Il faut quand même garder une poire pour la soif. Et donc, ça m'avait un peu éduqué, ça m'avait enseigné. Dieu peut nous combler de toutes ses grâces et il y a un pas de foi. Un pas de foi. Dieu veut vraiment nous combler. Et il ne faut pas forcément se dépouiller, et vider ses poches et dire bah, « Dieu va pourvoir ». Non, non. Dieu veut qu'on soit simplement généreux en comptant sur lui avec sagesse. Et si on le fait, alors bien, il y a un miracle qui se produit. Il le dit, à ce moment-là, « Nous possédons toujours en toute chose de quoi satisfaire à tous nos besoins ». Et il dit encore « Et on a encore avec abondance pour toute bonne œuvre ». Donc non seulement on arrive à pourvoir aux besoins, mais en plus il nous donne encore un peu plus pour qu'on puisse aider et faire quelque chose pour les autres. Et donc Dieu promet qu'il va récompenser notre générosité et on ne manquera pas du nécessaire. Et même on va pouvoir continuer à faire du bien autour de nous. Et c'est comme un cercle de bénédiction. C'est, on bénit les autres et puis Dieu nous bénit et la bénédiction tourne. Il dit « Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. » Ça, c'est une promesse à saisir et un pas de foi à faire. Entrer dans la foi. Et vous savez, plus nous retenons nos biens, plus c'est difficile en fin de mois. C'est en tout cas, moi je l'ai vécu comme ça, c'est à tous les coups comme ça. Plus nous retenons et plus eh bien, on se retrouve seul à assumer nos charges, à assumer tout ce qui est nécessaire pour la vie. On se retrouve seul et là, eh bien, il faut parfois faire des gymnastiques de l'esprit pour réussir à s'en sortir. Et on a le sentiment qu'on ne s'en sort jamais. Et plus nous sommes généreux, plus Dieu fait des miracles. Plus Dieu fait des choses dans notre vie, il augmente les fruits de notre justice. Il fait quelque chose, il nous fait du bien, et à ce moment-là, eh bien, il y a un fruit éternel même. On arrive même à donner aux autres et à faire quelque chose pour les autres. Et c'est vraiment un choix de vie. Un choix de vie. Et ça m'amène au quatrième point. La générosité, enrichit. Elle enrichit celui qui la pratique. Regardez verset 11. Il dit, « Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. » Et donc, il dit qu'il y a un enrichissement par la pratique de la libéralité. Et cet enrichissement, ce n'est pas simplement matériel, mais c'est aussi spirituel. Simplement, on fait des pas de foi dans la générosité et Dieu nous enrichit spirituellement parce qu'on voit de plus en plus Dieu dans notre vie. On le voit parce qu'on est en train de manifester ce qu'il est. Hein. Vous vous souvenez de l'illustration de ce soldat voilà, on est en train de manifester la générosité de Dieu. Donc ça, c'est un fruit. Et puis, c'est aussi quelque chose qui est éternel, qui se poursuit dans l'éternité. Et puis, il y a de la louange. On donne et on suscite la louange envers celui à qui l'on donne. Et ça, c'est quelque chose qui monte vers Dieu. C'est vraiment un fruit pour Dieu. Imaginez la louange qui est sortie du cœur des frères de Jérusalem quand ils ont reçu cette abondante collecte de Macédoine, de Corinthe et d'un peu partout. Ils étaient dans la louange. Ils ont « Oh Seigneur, tu nous combles, tu nous combles. » Regardez versets 12 à 14. « Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours, dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous, parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. » Et la générosité est un enrichissement à tous égards. Elle est un enrichissement pour nous-mêmes, elle est un enrichissement pour les autres, hein, puisqu'il y a toute cette louange, cette reconnaissance qui monte à Dieu. Sans compter que Dieu dit également, être généreux, c'est s'amasser pour l'avenir un trésor qui est placé sur un fondement véritable. Donc ça, c'est l'éternité. On est en train de parler du ciel. Et j'aimerais juste terminer avec le verset 15. Il dit... « Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. » Et après avoir exhorté à la générosité, Dieu nous rappelle quelque chose qui est essentiel. En fait, il nous dit « Mais qui a donné le premier ?» Qui a donné le premier ? Il dit « C'est moi. C'est moi qui vous ai donné Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. » Dieu nous a donné un salut qui est parfait, un pardon qui est complet, une sainteté par grâce, il nous l'offre. Le bonheur d'avoir une bonne conscience, d'être lavé dans sa conscience, c'est inestimable. Une communion qui est gratuite, qui est libre, qui est personnelle, qui est proche avec lui. La grâce d'un Dieu qui répond à nos prières. L'attention d'un père bienveillant, l'amour d'un frère et la certitude qu'on ira au ciel. Dieu nous a donné le premier. Alors, eh bien, puisqu'il nous a donné, il nous dit, ben, soyez généreux. On va s'incliner dans la prière. Si vous voulez le louer, vous pouvez le faire.